France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Les quatre ONG à l'origine de la pétition baptisée l'affaire du siècle ont déposé ce matin un recours en justice contre l'État français pour manquement à son obligation d'action contre le réchauffement climatique. Des ONG soucieuses notamment d'inscrire leur action dans la dynamique d'une semaine de forte mobilisation internationale.
L'exécutif a visiblement du mal à défendre son projet contesté de céder toute ou partie de sa participation dans le groupe Aéroport de Paris.
Ce n'est pas la privatisation totale mais une concession, a encore essayé ce matin de se justifier le ministre de l'Action et des Comptes Publics Gérald Darmanin.
Deux jours après l'incendie, puis le naufrage du navire italien Grande America, des nappes d'hydrocarbures se répandent désormais au large de la Charente-Maritime et de la Gironde.
À l'étranger, l'interminable et a priori inextricable feuilleton autour du Brexit se poursuit après avoir exclu hier l'hypothèse d'une sortie sans accord de l'UE. Les députés britanniques doivent se prononcer aujourd'hui sur un éventuel report de la rupture, toujours programmé pour le 29 mars. Enfin, l'invité politique de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Gilles Carrez, député Les Républicains du Val-de-Marne. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Et la suite de notre grand entretien avec la romancière et écrivaine Leïla Slimani. Elle est la représentante personnelle d'Emmanuel Macron pour la francophonie. Elle est aussi en ce moment la présidente du jury documentaire du Festival du film international sur les droits humains dont nous sommes partenaires et qui se tient à Genève jusqu'au 17 mars. Ensemble, nous allons donc parler langue française, féminisme, droits de l'homme et beaucoup d'autres sujets. C'est à partir de 12h55.
Merci et à tout à l'heure. Qu'il s'agisse des Philippines, en proie actuellement à une très forte sécheresse en raison du phénomène El Niño déclenché par un réchauffement anormal d'une partie de l'océan Pacifique ou de la violente tempête de fin d'hiver qui, hier, a balayé plusieurs États américains où le blizzard et des inondations liées à la fonte des neiges ont entraîné des évacuations, la fermeture de routes et de pannes de courant. Plus personne ne peut aujourd'hui nier que les conditions météorologiques mondiales, sécheresse ou tempête, deviennent sous nos yeux de plus en plus extrêmes. Et quand bien même celle-ci ne serait pas nécessairement une conséquence directe du changement climatique, elle témoigne à tout le moins d'un dérèglement manifeste. Chaque jour ou presque, les nouvelles s'accumulent en ce sens. La veille encore, c'est un rapport inédit de l'ONU qui nous apprenait, lui, qu'un quart des morts prématurées et des maladies à travers le monde étaient liées aux atteintes à l'environnement. Alors ce faisant, nul doute que les sommets pour le climat sont aujourd'hui des rendez-vous indispensables pour faire prendre conscience aux responsables politiques de l'urgence de la situation. Reste à savoir si ces grands raouts sont aussi de nature à amener les dix responsables à prendre des mesures efficace. Or, il se trouve que le hasard de l'actualité a fait qu'Emmanuel Macron, lequel en tant que champion de l'environnement co-préside aujourd'hui le One Planet Summit à Nairobi, est aussi, dans le même temps, attaqué depuis ce matin pour inaction climatique. Quatre ONG à l'origine de la pétition L'Affaire du siècle ont en effet déposé un recours contre l'État français en ce sens. Véronique Robérotte, bonjour.
Bonjour.
En clair, après l'euphorie suscitée par les plus de 2 millions de signatures de la pétition en ligne, L'Affaire du siècle débarque désormais dans le prétoire du tribunal administratif de Paris. Avec quel espoir d'aboutir, Véronique, de la part des ONG, mais aussi de ses citoyens qui ont signé?
Avec l'espoir que l'État bouge et agisse enfin à la hauteur de ce que les ONG ont appelé ce matin non plus l'urgence, mais l'alarme climatique. Le dépôt donc ce matin d'un recours contre l'État pour carence fautive en matière d'action climatique, soutenu, vous l'avez dit, appuyé par plus de 2 millions de citoyens qui ont donc signé la pétition L'Affaire du siècle. Eh bien, ce recours est parfaitement étayé. Il ne s'appuie pas sur du vent, a-t-on entendu ce matin lors de la conférence de presse. Je cite les ONG, des dizaines de juristes et d'avocats ont travaillé à démontrer que l'État français, depuis des dizaines d'années, porte de beaux discours sur le climat, sur son action pour lutter contre le réchauffement climatique. Or, la réalité est tout autre. Les émissions de gaz à effet de serre de la France sont reparties à la hausse depuis 2015. La France fait partie des pays européens qui accusent le plus gros retard en matière du développement des énergies renouvelables. Retard aussi sur des objectifs de réduction de consommation d'énergie. Des faits devant un tribunal. Les politiques publiques ne sont pas à la hauteur des enjeux climatiques. Et un juge peut, cela prendra peut-être un an, deux ans, obliger un État de façon contraignante à agir. Pour les ONG, en tout cas, porter l'affaire devant les tribunaux, c'est innover, défricher le droit sur l'environnement, comme cela a été fait ailleurs, comme aux Pays-Bas. Les juges ont donné raison aux citoyens. L'État néerlandais a musclé sa loi sur la transition énergétique sous la pression judiciaire et citoyenne. Le rapport de force a donc fonctionné. C'est ce qu'espère en tout cas Jean-Jacques Julliard, c'est le directeur de Greenpeace France.
Nous, on a travaillé le plus sérieusement possible, le plus rigoureusement possible avec les nombreux juristes et avocats qui nous ont accompagnés dans cette démarche-là. Ce recours est déposé. Il va y avoir des allers-retours, des échanges d'écriture entre l'État et les quatre organisations co-requérantes. On verra bien à la fin ce que le juge dit. L'urgence est telle qu'il faut tout tenter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent bien qu'il y a envie d'aller plus loin, qu'on ne peut plus. Une grande partie de la population a compris qu'on ne pouvait plus se contenter de ne rien faire ou de faire des petits pas pour reprendre la formule du gouvernement. Et qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin. Il faut une vraie mobilisation massive à travers la participation à des marches dans la rue. Il faut que les citoyens, les jeunes, se mettent en grève comme ils le font. Il faut que certains groupes mènent des actions de désobéissance civile parce que c'est aussi nécessaire pour l'emporter à la fin. Et puis, il faut utiliser les tribunaux. Quoi qu'en dise le ministre de la Transition écologique, oui, on espère bien que c'est dans les tribunaux qu'on va réussir à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre.
Alors c'est vrai, ce recours climatique s'inscrit dans une semaine d'action tous azimuts sur le climat, partout dans le monde. Nouvelle grève des lycéens, étudiants demain, surtout en Europe. Grande marche du siècle samedi, partout dans le monde. Action de désobéissance civile au programme aussi en France demain matin. Cette mobilisation collective, citoyenne et capitale, les ONG l'ont rappelé, elles entendent aujourd'hui jouer sur plusieurs tableaux à l'avenir.
Merci Véronique Robérot. Et puis j'ajoute que depuis le Kenya où il co-préside le One Planet Summit, Emmanuel Macron a indirectement répondu aux critiques ce matin en évoquant dans son discours les impatiences exprimées par la jeunesse. Quant au ministre de la Transition écologique, François de Rugy, il a lui dénoncé un mauvais procès. Toujours au Kenya et 4 jours après le crash du Boeing de la compagnie Ethiopian Airlines, le président français et le premier ministre éthiopien ont eux discuté hier d'un nouveau contrat pour Airbus dans le cadre du renouvellement de la flotte d'Ethiopian Airlines, contrat qui s'ajouterait à une commande déjà signée portant sur une vingtaine d'A350. Enfin, l'entourage du président français a par ailleurs laissé entendre avoir reçu de Pékin cette fois-ci des signaux positifs sur la finalisation de la méga commande d'Airbus arrachée en janvier de l'année dernière. Autant de signaux, et ça n'est évidemment probablement pas un hasard qui intervient donc au moment même où Boeing, concurrent d'Airbus, subit un revers de taille. Le crash de son appareil dimanche dernier en Éthiopie a entraîné une interdiction de vol mondiale de son avion 737 MAX. Hier même, le président Donald Trump s'est finalement résolu à immobiliser les avions du constructeur américain. Enfin, ultime communication toujours depuis le Kenya, où il est en visite d'État depuis hier. Emmanuel Macron a annoncé ce matin la signature pour 2 milliards d'euros de contrats avec Nairobi, dont 1 milliard et demi sur 30 ans pour l'attribution de la concession d'une autoroute à un consortium mené par Vinci. Alors, il est une autre actualité où le nom de Vinci circule depuis quelque temps. C'est évidemment le dossier Aéroport de Paris, l'entreprise déjà bien implantée dans le secteur aéroportuaire et actionnaire à 8% d'ADP, figure parmi les candidats les plus sérieux au rachat à l'État de ses parts, quoi qu'il en soit. Et depuis la première lecture du projet de loi Pacte en octobre dernier jusqu'à son retour hier à l'Assemblée, ce projet de privatisation d'ADP est devenu la principale pierre d'achoppement combattue par les oppositions. Il est en revanche farouchement défendu par le gouvernement. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour.
Ce matin, Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, a encore répété qu'il ne s'agissait pas d'une privatisation, mais d'une concession, une subtilité de langage, Stéphane, qui cache mal la difficulté de l'exécutif à justifier son projet.
Oui, depuis hier, le gouvernement essaie de désamorcer l'opposition, la grogne et l'incompréhension qui montent contre ce projet de privatisation. Hier après-midi, le Premier ministre Édouard Philippe, pris à partie lors des questions au gouvernement, a même essayé d'expliquer aux députés qu'Aéroports de Paris n'était pas une entreprise si florissante que ça.
Nous savons tous que la façon dont fonctionne aujourd'hui Aéroports de Paris est largement perfectible. Je crois que tout le monde le sait. Je n'attaque personne en disant cela, mais nous savons que la qualité de service, le montant des investissements, la façon dont nous organisons le hub et la coopération avec un certain nombre de grandes compagnies, y compris la compagnie nationale, ne sont pas aujourd'hui satisfaisants.
On s'en réfère au chiffre d'affaires. Il a augmenté de 22% en 2018 avec un bénéfice de plus 7%. Et les perspectives pour les années à venir sont plutôt encourageantes. Dès lors, de très nombreux parlementaires se demandent pour quelles raisons le gouvernement veut privatiser cet actif actuellement rentable. Question à laquelle le ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin, a répondu ceci ce matin au micro de nos confrères de France Info.
Qu'est-ce qui est stratégique pour l'État? Est-ce que c'est de gérer les boutiques commerciales d'aéroports de Paris-Roissy ou Orly? Ou est-ce que c'est de créer la possibilité, c'est pour ça qu'on récupère l'argent, de faire un fonds d'innovation qui nous permettra de faire le Google français de demain.
Pour l'exécutif, l'État n'a donc pas vocation à faire du commerce, mais à investir de façon stratégique, en l'occurrence dans des entreprises innovantes, afin de faire naître le futur Google français ou européen. Et concrètement, ce qui est prévu est de placer sur les marchés financiers le fruit de la privatisation, ce qui permettra, selon les estimations, de récupérer un peu plus de 200 millions d'euros par an. Seulement, ce que rapportent actuellement à l'État ces entreprises qu'on veut privatiser, Aéroports de Paris, mais aussi la Française des Jeux et une partie d'Engie, anciennement GDF. C'est beaucoup plus que 200 millions d'euros. Dès lors, personne ne comprend. Même un certain nombre de députés de la majorité vous disent, hors micro et à mots couverts, j'aimerais quand même bien qu'on m'explique pourquoi on fait ça.
Merci Stéphane Robert, et je précise que nous reviendrons notamment sur ce dossier d'ici une quinzaine de minutes avec l'invité politique de la rédaction, le député Les Républicains du Val-de-Marne, Gilles Carrez. Les départements de Gironde et de Charente-Maritime ont placé leurs services en phase de pré-alerte pour anticiper la possible pollution des côtes par la nappe d'hydrocarbures échappée du navire italien Grande America qui a coulé mardi après-midi au large de La Rochelle. Les reconnaissances aériennes ont décelé une nappe d'hydrocarbures d'une dizaine de kilomètres de long et d'un kilomètre de large. Précisons par ailleurs que ce navire n'a pas seulement sombré avec 2200 tonnes de fioul lourd dans ses soutes, mais aussi des conteneurs renfermant des matières dangereuses. Soizic Bourg, bonjour.
Bonjour.
Alors les causes de la catastrophe sont a priori connues. Le navire a coulé après avoir été touché par un incendie. L'ONG Robin des Bois a elle décidé de porter plainte contre X pour pollution et abandon de déchets. Elle dénonce, Soizic, une catastrophe pour le littoral et en appelle directement à l'État.
Oui, parce qu'il y a le fioul, mais aussi tout le reste, notamment le plastique et le polystyrène, des matières jugées non dangereuses par le Code maritime international. Et c'est notamment ce que conteste Charlotte Nittard, une des porte-paroles de Robin des Bois.
Il y a aussi tout un tas d'objets qui sont maintenant des déchets, qui ne sont pas considérés classés comme matières dangereuses et qui pour autant sont des matières polluantes. On pense notamment à tout ce qui est matériaux plastiques. Donc il y a une nappe d'hydrocarbures, mais il va aussi y avoir des arrivées peut-être de conteneurs intègres qu'il va falloir récupérer, mais aussi de leur contenu. Et donc il faut s'attendre aussi à une nappe de déchets flottants.
En cause aussi, selon l'ONG, les armateurs trop peu vigilants, trop peu scrupuleux sur le contenu de ce qu'ils transportent et qui font de fausses déclarations aux lourdes conséquences, selon Charlotte Nittard.
Ça vous crée des incompatibilités de matière entre elles, des débuts d'incendie. Et finalement, on estime que c'est entre 4 et 10% de déclarations frauduleuses quant au contenu des conteneurs qui sont effectués.
Alors le député européen Yannick Jadot, lui, va plus loin. Pour lui, il y a un vrai laxisme autour du transport maritime et l'Europe doit se saisir de ce phénomène.
L'Europe a parfaitement imposé que tous les bateaux qui entrent dans ces ports respectent un certain nombre de conditions de sécurité, des conditions sociales, environnementales supérieures aux normes internationales. Mais l'Europe doit aussi se battre dans le cadre international et y compris faire la police avec ses propres États membres.
Un faux problème pour François de Rugy. Le ministre de la Transition écologique a notamment rappelé que des routes maritimes très surveillées vont être créées, ainsi qu'une agence européenne pour la sécurité maritime.
Merci Soizic Bourg. Comme prévu, la tragicomédie s'est poursuivie hier à la Chambre des communes. Les députés britanniques se sont prononcés contre une sortie non négociée du Royaume-Uni de l'Union européenne, non sans avoir pris la peine, je vous le rappelle, de rejeter précisément la veille l'accord de Brexit négocié entre Londres et Bruxelles. Alors même s'il ne contraint pas le gouvernement, mais plus encore ne garantit en aucun cas qu'une sortie sans accord finisse par se produire, ce vote constitue toutefois un signal politique considérable, et notamment parce que plusieurs membres du gouvernement de Theresa May l'ont approuvé. Pour le reste, eh bien, on navigue toujours à vue qu'on prenait en plein fog. Antoine Gignot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Londres. En deux jours, les députés auront donc voté successivement contre l'accord et contre le non-accord. Aujourd'hui, ils devront cette fois-ci se prononcer sur un report du Brexit au 30 juin. Sauf que pour ce faire, Theresa May leur intime d'approuver d'ici au 20 mars l'accord de sortie qu'ils ont rejeté à deux reprises, sous peine de repousser indéfiniment la sortie de l'UE.
Oui, le discours est simple. Si vous ne validez pas mon plan, explique Theresa May, je demanderai un report longue durée de la sortie de l'Union européenne et il n'y aura peut-être pas de Brexit du tout. C'est un chantage inacceptable, répond Steve Baker, l'un des chefs de file des conservateurs eurosceptiques. Mais pendant que Theresa May brandit le bâton, Philippe Hammond, lui, dégaine une carotte. Le ministre de l'économie appelle à soutenir rapidement les plans du gouvernement et il promet en échange de l'argent. À cause notamment de la baisse des taux d'intérêt sur la dette, dit-il, le Royaume-Uni dispose d'un trésor de guerre, près de 30 milliards d'euros, qui pourrait servir à augmenter les dépenses publiques pour adoucir les effets du Brexit et même mettre fin à la politique d'austérité. Si rien ne change, reprend Philippe Hammond, nous nous acheminerons vers un Brexit moins dur, le Royaume-Uni pourrait rester dans une union douanière. un Brexit qui, semble-t-il, conviendrait à Bruxelles. Déclaration du président du Conseil européen Donald Tusk ce matin. L'Europe est prête à accorder un long report de l'article 50 pour permettre au Royaume-Uni de repenser sa stratégie, comprenez, pour aller vers un Brexit plus doux.
Merci Antoine Gignot en direct de Londres. Depuis aujourd'hui se tient à Vienne la 62e commission des stupéfiants à laquelle participent une cinquantaine de pays. Tous doivent faire le point sur 10 années de politique des drogues. Il s'était fixé à l'origine comme objectif la réduction sensible du trafic et de la consommation de stupéfiants. Or, 10 ans plus tard, force est de constater que cette politique de la guerre à la drogue n'a pas fonctionné. Pour prendre seulement le cas de la production d'opium par exemple, celle-ci a même plus que doublé. Tara Schlegel, bonjour.
Bonjour.
Ce matin, dès l'ouverture de la session, les pays réunis en Autriche ont adopté ce que l'on appelle en langage diplomatique une déclaration ministérielle.
Oui, un texte adopté par consensus est obligatoire et dont le contenu est donc forcément à minima parce que les pays sont très divisés entre ceux qui ont dépénalisé l'usage de drogue, voire comme l'Uruguay ou le Canada récemment, ceux qui régulent désormais publiquement le marché, autorisant la production, la distribution de cannabis dans certains réseaux précis accompagnés d'une politique de santé publique, et des pays comme les Philippines. C'est évidemment un cas extrême qui exécute les dealers sans procès. 27 000 exécutions extrajudiciaires depuis l'arrivée du président Duterte aux Philippines, à Manille. Entre ces extrêmes, il fallait un texte non clivant, ce que regrettent les associations qui accompagnent au quotidien les toxicomanes. Enzo Poultronier est à Vienne, où pour l'association Aide, il suit les débats. Ce militant rappelle qu'il y a 3 ans, les mêmes États, lors d'une autre session extraordinaire de l'ONU, étaient allés dans un sens progressiste. Or, cette fois, ils veulent ménager un équilibre qui ne mène nulle part, Enzo Poultronier.
Les faibles acquis qu'on avait obtenus en 2016 lors de l'UNGAS sur les drogues sont réaffirmés, c'est-à-dire le fait d'intégrer des objectifs en matière de santé, de respect des droits humains, d'inclusion de la société civile, tout ça s'est maintenu, mais c'est maintenu à pied d'égalité avec les politiques les plus répressives et les plus agressives vis-à-vis des consommateurs de drogue. Et ça, c'est quelque chose qui est en fait contradictoire. On peut pas d'un côté mettre des gens en prison pour simple usage de cannabis et de l'autre vouloir défendre leur santé. C'est tout à fait contradictoire comme approche.
La société civile, qui est représentée par une plateforme de 180 ONG, regrette que les États à Vienne n'aient pas d'abord fait le bilan chiffré de 10 ans de lutte mondiale contre la drogue. Pour ces ONG, il s'agit d'un échec. La consommation des drogues, par exemple, n'a cessé d'augmenter dans le monde ces 10 dernières années. Plus 17% pour le cannabis et les opioïdes, plus 33% pour l'ecstasy.
Merci Tara Schlegel. En Algérie, après 3 semaines de contestations qui auront conduit le président Abdelaziz Bouteflika à renoncer à briguer un 5e mandat, les autorités continuent à vouloir jouer la carte de l'apaisement. Ce matin, le nouveau Premier ministre a promis de former un gouvernement d'experts où les jeunes et les femmes seront représentés. Puis le chef du gouvernement a par ailleurs assuré que la prochaine élection présidentielle serait supervisée par une commission indépendante. L'invité politique de la rédaction aujourd'hui, Gilles Carrez, député Les Républicains du Val-de-Marne. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Stéphane Robert, chef du service politique de la rédaction. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour.
Nous avons commencé à évoquer tout à l'heure le dossier controversé donc de la possible privatisation d'aéroports de Paris. Vous n'y êtes pas favorable, Gilles Carrez, pour quelle raison ?
Je n'y suis pas favorable parce que je suis instruit par l'expérience. Je me suis opposé en 2005 à la privatisation des autoroutes. Et la suite m'a donné raison. Hélas, cette privatisation des autoroutes, c'est un véritable fiasco. D'abord, il faut savoir que, en versement de dividendes, les actionnaires se sont remboursés des 15 milliards en à peine 10 ans, alors que les concessions durent de 25 à 30 ans. Vous voyez tous les bénéfices qui vont s'accumuler ensuite. L'État a perdu tout contrôle en matière de péage. Par exemple, en 2014-2015, Ségolène Royal, quand elle a voulu obtenir 3 milliards de travaux, elle a dû consentir des augmentations de péage cachées, dissimulées, reportées. Ça joue à partir de 2019 jusqu'en 2023, avec une indexation sur l'inflation. D'ailleurs, comprenez, les péages sont indexés sur l'inflation et les retraites, on refuse de les indexer sur l'inflation. Et puis plus grave encore, et ça n'est pas souligné, l'État a perdu son pouvoir fiscal. Alors Bruno Le Maire nous explique qu'il faut aller chercher de l'argent, de la fiscalité chez les GAFA, mais il faut savoir que les concessions autoritaires sont exonérés, par exemple, de la réduction de la déductibilité des intérêts des emprunts, qu'elles ont pu négocier dans leur contrat léonin avec l'État le fait qu'il n'y aura pas d'augmentation de redevances domaniales ou alors qu'elle sera compensée par des hausses de péage. Donc, l'observation de ce qui s'est passé.
C'est-à-dire que les hausses d'impôts, les hausses d'impôts ne concernent pas les sociétés autoroutières.
Les contrats sont des contrats léonins qui ont été négociés avec un État impuissant ou mal habile, et qui fait que toute hausse de fiscalité doit être compensée parce que les contrats ont été signés à fiscalité constante. Donc on a en quelque sorte des sortes de GAFA chez nous. Alors,
c'est ce qui se profile pour Aéroports de Paris,
alors,
selon vous.
On nous explique que pas de problème, on commettra pas les mêmes erreurs. Moi, je rappelle quand même que j'étais contre en 2005, j'étais rapporteur du budget. Dominique de Villepin, il était vraiment l'initiateur, Premier ministre, c'est lui qui a décidé cette privatisation. J'observe que Bruno Le Maire était son collaborateur à l'époque. J'ai une deuxième expérience parce que tout ça est bien au-delà des sensibilités politiques et toutes les majorités successives sont confrontées au même problème. Ma deuxième expérience, au-delà des autoroutes, c'est l'aéroport de Toulouse.
Oui,
c'est une honte. Et là, avec la rapporteure générale du budget, Valérie Rabault, moi-même, nous nous sommes battus en disant mais ça n'est pas raisonnable d'aller confier cet aéroport, la privatisation de cet aéroport, à un fonds d'investissement chinois. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le fonds d'investissement chinois n'a tenu aucun de ses engagements et maintenant il va vendre au prix fort avec une plus-value de 300 ou 400 millions. Et qui est-ce qui va récupérer Toulouse? C'est peut-être la collectivité publique par le biais de la Caisse des dépôts ou je ne sais. Et donc, on va payer deux fois. Alors, quand vous avez vécu de telles expériences, quand vous avez alerté les gouvernements successifs en vain, que vous vous dites, il va se passer exactement la même chose en matière de contrôle, par exemple, de redevances aéroportuaires. Bruno Le Maire nous dit, pas de problème, on fera pas les mêmes erreurs qu'avec les péages autoroutiers. Mais il va y avoir une très forte augmentation du trafic à Roissy. Très forte. En plus, Roissy, Orly, c'est un monopole naturel. On ne fera pas un second Roissy ou un second Orly en région parisienne. Donc, confier des monopoles naturels au privé, c'est se mettre pieds et poings liés. Et donc, peut-être qu'il y aura une semblante contrôle sur les redevances aéroportuaires, mais il n'y aura absolument pas de retour à l'État si le trafic aérien augmente. On va créer un terminal supplémentaire. Roissy a beaucoup de capacités. J'ajoute qu'il y a des milliers d'hectares qui appartiennent à la collectivité publique aujourd'hui, dont une partie appartient à la société Aéroports de Paris, où l'État est majoritaire. Milliers d'hectares autour de Roissy, autour d'Orly, qui vont être bien desservis en 2024 par le Grand Paris Express. Et toutes ces plus-values, elles seraient faites par le privé. Mais ça n'est pas normal.
Comment ça se fait que l'État ne sait pas négocier et pourquoi il fait des choix comme ça?
Hier, le Premier ministre nous dit, en fait, Aéroports de Paris, sous prétexte que c'est une gestion publique, d'ailleurs c'est une gestion publique, qu'à un peu plus de 50%. Le partenaire privé est présent à 49%. Et ça, c'est une bonne chose qu'il y ait des actionnaires privés. Mais il nous dit, c'est une gestion qui est défectueuse. Mais je ne suis pas d'accord du tout. Il suffit de regarder les investissements qu'a fait Aéroports de Paris, de regarder la qualité des services qui ont été consentis, de regarder toutes les interventions à l'international d'Aéroports de Paris qui s'est développée, de regarder tous ces éléments et la rentabilité aussi qui s'est fortement redressée. Moi, je conteste la position idéologique ultralibérale qui consiste à dire, sous prétexte que c'est une gestion publique, c'est une mauvaise gestion. Je le conteste fortement. On m'avait déjà servi cet argument en 2005, à l'occasion de la privatisation des autoroutes. Vous verrez, avec le privé, ce sera beaucoup mieux géré. J'observe que ça n'est pas le cas. Et donc, je demande en fait au gouvernement et puis à la haute administration, qui est derrière aussi, et qui a toujours des visions, une vision constante de privatisation sur ces sujets-là, je demande au gouvernement d'écouter les parlementaires. En 2005, ils auraient dû m'écouter. En 2005, j'ai été soutenu par exemple par François Bayrou, mais nous n'avons pas pu avoir gain de cause. Et nous avions raison. Valérie Rabault avait raison en 2014 par rapport à Toulouse. Donc vous voyez, ce ne sont pas des problèmes de clivage politique, ce sont des problèmes de conception de l'intérêt général. Et moi, ma conception de l'intérêt général, c'est que quand il y a un monopole naturel, une grande infrastructure, la collectivité publique doit garder la maîtrise.
Et on terminera là-dessus. Merci Gilles Carrez, député Les Républicains du Val-de-Marne, d'avoir été en direct avec nous. Et merci également à Stéphane Robert. On termine ce journal avec un mot rapide de météo. Partout, le ciel sera couvert et humide cet après-midi, à l'exception des régions méditerranéennes qui devraient encore bénéficier de belles éclaircies. Attention toutefois aux rafales de vent quant aux températures. Elles seront généralement comprises entre 9 et 19 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.